Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui au cœur de mai 68. On a décortiqué pour vous des articles de Wikipédia en français et en anglais. On est prêt à partager les pépites les plus fascinantes de cette période charnière de l'histoire française.
Oui, on va tenter de démêler les fils de ce qu'a fait de mai 68 bien plus qu'une simple révolte étudiante. On parlera de l'effervescence sociale et culturelle qui a marqué la France. Et on essaiera de comprendre comment cet événement continue de résonner aujourd'hui.
Exactement. On va se poser plein de questions. Qu'est-ce qui a réellement mis le feu aux poudres en mai 68 ? Était-ce seulement une agitation étudiante ou des tensions plus profondes étaient-elles déjà à l'œuvre dans la société française ? Comment un mouvement étudiant a-t-il pu entraîner une grève générale qui a paralysé le pays tout entier ? Quel rôle ont joué les slogans et les affiches si emblématiques de cette époque dans la formation de l'esprit de la Révolution ? Et surtout, quel est l'héritage de mai 68 aujourd'hui en France et dans le monde ?
Ce qui est passionnant avec mai 68, c'est que pour le comprendre, il faut se plonger dans le contexte de la France de l'époque. Imaginez, nous sommes à la fin des Trente Glorieuses, une période de croissance économique sans précédent. Mais derrière, cette façade de prospérité des fractures sociales se creuse.
Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Yeah. On a souvent l'image d'une France en plein boom économique, insouciante et moderne. Mais vous nous dites qu'il y avait un revers à la médaille.
Absolument. Le chômage, par exemple, est en hausse, touchant particulièrement les jeunes. Près d'un demi-million de personnes sont à la recherche d'un emploi. Et 5 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. On voit bien que la prospérité n'est pas partagée par tous. Et ce sentiment d'exclusion va nourrir le mécontentement.
C'est frappant comme contraste, en effet. D'un côté, on a l'essor de la société de consommation avec ses gadgets et ses voitures. Et de l'autre, une partie de la population peine à joindre les deux bouts.
Et ce n'est pas tout. N'oublions pas les bidonvilles qui existent encore à la périphérie de Paris. Notamment à Nanterre, tout près de la toute nouvelle université. C'est un symbole fort, la précarité côtoie la modernité. Et cette juxtaposition va alimenter un sentiment de révolte.
On comprend mieux le contexte social tendu qui a précédé mai 68. Mais qu'en est-il du climat politique ? Charles de Gaulle, figure emblématique de la France, est au pouvoir depuis 10 ans. Est-ce que son autorité est remise en question ?
Oui, on observe une certaine usure du pouvoir gaulliste. Bien sûr, de Gaulle reste une figure importante. Mais on sent poindre une lassitude, un désir de changement. L'élection présidentielle de 1965, où de Gaulle est mis en ballotage, a révélé des fissures dans son autorité. Et en 1967, sa majorité à l'Assemblée nationale se réduit à un seul siège. Le slogan « 10 ans, ça suffit », qui deviendra emblématique de mai 68, traduit bien ce sentiment.
Alors, on a une situation économique tendue à un pouvoir politique qui s'essouffle. Mais qu'en est-il de la jeunesse dans tout ça ? Quel rôle joue-t-elle dans ce contexte pré-révolutionnaire ?
La jeunesse est un élément clé. C'est elle qui va être le fer de lance de la contestation. Les étudiants en particulier aspirent à un monde différent, plus juste, plus libre. Ils remettent en cause l'autorité et la société de consommation, les normes morales. On imagine l'effervescence sur les campus, les débats passionnés, l'énergie de la jeunesse qui refuse de se laisser dicter sa conduite. On sent que quelque chose est en train de bouillonner, une énergie nouvelle qui demande à s'exprimer.
Exactement.
Et l'éducation devient un terrain de contestation important. Le système éducatif français de l'époque est jugé rigide, autoritaire, déconnecté des aspirations de la jeunesse. Les étudiants réclament des réformes, une plus grande participation à la vie universitaire. Ils veulent une université plus ouverte, plus démocratique. C'est fascinant de voir comment tous ces éléments, le contexte économique, le climat politique, l'effervescence de la jeunesse convergent vers un point de rupture. Mais comment en passe-t-on de ce bouillonnement diffus à l'explosion sociale de mai 68 ? Quel est l'élément déclencheur ?
Tout commence à Nanterre à l'université avec le mouvement du 22 mars. Ce mouvement étudiant né d'une occupation va être le catalyseur de la révolte.
Ah, le mouvement du 22 mars, un nom qui résonne encore aujourd'hui. Mais qui sont ces étudiants ? Quelles sont leurs revendications ?
Ce sont des étudiants qui refusent le statu quo, qui veulent une université plus libre, plus démocratique. Ils s'organisent en assemblée générale, pratiquant une forme de démocratie directe. Ils sont anti-autoritaires, anti-capitalistes et aspirent à un changement radical de la société.
Ce qui est intéressant, c'est que le mouvement du 22 mars va bien au-delà des revendications purement étudiantes. Ils remettent en cause l'ensemble du système, la société de consommation, la guerre du Vietnam. C'est une contestation globale qui préfigure l'esprit de mai 68.
Exactement. Et ce qui va être déterminant, c'est la réaction des autorités. Le 3 mai, une manifestation à l'université de Nanterre contre la guerre du Vietnam est violemment réprimée par la police. L'université est fermée. Les étudiants sont dispersés.
Alors là, les choses s'enveniment. On imagine la colère des étudiants face à cette répression. Comment réagissent-ils ?
Eh bien, ils vont se replier sur la Sorbonne, à Paris, symbole de l'université française traditionnelle. L'occupation de la Sorbonne, c'est un acte fort, une provocation, qui va marquer un tournant dans le mouvement.
la Sorbonne occupée par des étudiants en révolte. On imagine la stupeur des autorités, le symbole du savoir et de l'ordre investi par la contestation. Et comment réagissent les autorités face à cette occupation ?
Le recteur de l'Académie de Paris fait appel à Apolis pour évacuer la Sorbonne. Le 10 mai, les forces de l'ordre chargent les étudiants. Les images de ces affrontements diffusées à la télévision vont choquer l'opinion publique et radicaliser le mouvement.
Ah, la violence de la répression. On sent que la situation est en train de basculer. Loin d'éteindre le feu de la contestation, la répression ne fait que l'attiser.
C'est exact. Et c'est à partir de ce moment que le mouvement étudiant va prendre une ampleur nationale. Les syndicats ouvriers initialement hésitants vont se joindre à la contestation. Et la France va plonger dans une grève générale sans précédent.
C'est incroyable. On est passé d'une agitation étudiante localisée à une grève générale qui paralyse le pays tout entier. Mais comment s'est opérée cette jonction entre le mouvement étudiant et le monde ouvrier ? Quel rôle ont joué les syndicats dans cette escalade ?
C'est justement ce qu'on va explorer dans la suite de notre plongée au cœur de mai 68. Restez avec nous. Alors, on reprend le fil de notre récit. La Sorbonne est occupée, la police a chargé les étudiants. Et l'indignation grandit dans tout le pays. Ce qui est fascinant, c'est que les syndicats ouvriers, qui ont un rôle crucial à jouer dans la suite des événements, ne se rallient pas immédiatement au mouvement.
C'est surprenant, non ? On pourrait s'attendre à ce qu'ils se joignent sans hésiter à cette vague de contestation. Qu'est-ce qui les retient ?
Eh bien, au départ, les grands syndicats comme la CGT et le Parti communiste français se méfient du mouvement étudiant. Ils le perçoivent comme bourgeois, gauchiste, voire péril. Pour eux, la vraie révolution doit venir de la classe ouvrière, pas des étudiants.
On les imagine un peu décondensés par ce mouvement spontané et libertaire, qui bouscule leur code traditionnel. Leur vision de la lutte des classes semble un peu dépassée face à cette nouvelle forme de contestation.
Oui, il y a un décalage évident entre la culture militante traditionnelle et l'esprit de mai 68. Mais la situation va rapidement évoluer. Le 10 mai, la censure d'un reportage sur les événements de la Sorbonne dans l'émission Panorama déclenche une grève des techniciens et des journalistes de l'ORTF.
Ah, l'ORTF. La télévision d'État, symbole du contrôle de l'information. La voir paralysée par la grève, c'est un signal fort. Ça montre que la contestation touche désormais des secteurs clés de la société.
Absolument. Et le lendemain, le 11 mai, des centaines de milliers de personnes manifestent à Paris en soutien aux étudiants. La manifestation est violemment réprimée par la police. C'est un tournant face à cette brutalité. Le PCF et la CGT comprennent qu'ils ne peuvent plus rester en marge du mouvement.
C'est le moment de basculement. Le 13 mai, tous les syndicats unis appellent à une grève générale de 24 heures. C'est le début d'une mobilisation sans précédent.
Exactement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette grève qui devait être symbolique va se transformer en un mouvement de fond qui paralyse la France pendant des semaines. 10 millions de travailleurs en grève des usines occupaient les transports à l'arrêt.
On imagine le pays à l'arrêt, le chaos. Mais aussi l'excitation, l'espoir d'un changement radical. C'est un moment unique dans l'histoire de France, une rupture avec l'ordre établi.
Oui, c'est une période incroyable. La grève générale paralyse l'économie, mais libère aussi la parole. Dans les usines, les universités, les rues, les gens discutent, débattent. Imagine une société nouvelle, c'est ce qu'on appelle la libération de la parole. Un des aspects les plus fascinants de mai 68.
C'est vrai que cette notion de libération de la parole est centrale dans mai 68. Soudain, tout devient possible, les hiérarchies s'effondrent, les tabous tombent.
Exactement. On remet en question tous les aspects de la vie sociale, le travail, la famille, la sexualité, l'autorité. Mai 68, c'est un grand chambardement, une remise en question totale de l'ordre moral et social. Et face à ce mouvement qui prend une ampleur inattendue.
Que fait De Gaulle ?
Ah oui, Gaulle. On imagine le général figure emblématique de la France confronté à cette situation inédite. Comment réagit-il à cette chenille, comme il l'appellera plus tard ?
Au début, De Gaulle semble dépassé par les événements. Il est en voyage officiel en Roumanie lorsque la grève générale éclate. Il ne prend pas immédiatement la mesure de la crise. Son fameux « je ne retirerai pas ma candidature » prononcé quelques semaines plus tôt, le 19 avril semble déjà loin. Il faut dire que De Gaulle a l'habitude des crises, il en a traversé beaucoup au cours de sa longue carrière politique. Mais celle-ci est différente.
Oui, on imagine le choc pour cet homme habitué au pouvoir et au respect de l'autorité. Face à ce mouvement de contestation qui ébranle les fondements de la société française, comment réagit-il ?
De Gaulle rentre précipitamment en France le 24 mai et tente de reprendre le contrôle de la situation. Son premier ministre, Georges Pompidou, négocie avec les syndicats et propose des augmentations de salaire. Ces accords, appelés accords de Grenelle, sont un premier pas vers une sortie de crise.
C'est intéressant, cette tentative de négociation. On sent que le pouvoir cherche à calmer les choses, à apaiser les tensions. Mais est-ce que ces accords suffisent à ramener le calme ? Est-ce que les manifestants sont prêts à rentrer chez eux ?
Eh bien non, c'est là que les choses se compliquent. Les accords de Grenelle sont rejetés par la base.
Les ouvriers, encouragés par l'effervescence du mouvement, refusent de reprendre le travail. La grève continue.
Oh, la base qui rejette les accords négociés par les syndicats. C'est un signe fort de la radicalisation du mouvement. On sent que les gens ne sont plus seulement en colère, ils aspirent à un changement profond, à une transformation radicale de la société. Face à ce refus, comment réagit De Gaulle ?
La situation est très tendue. Le 29 mai, De Gaulle disparaît pendant quelques heures sans prévenir personne. On apprendra plus tard qu'il est allé consulter le général Massu en Allemagne, probablement pour s'assurer du soutien de l'armée.
C'est un moment de flottement incroyable. Le pouvoir semble vaciller, la France retient son souffle. On se demande ce qui va se passer. Est-ce que l'armée va intervenir ? Est-ce la fin de la République ?
Le 30 mai, De Gaulle réapparaît et annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Il joue le tout pour le tout Paris sur un retournement de l'opinion publique en sa faveur. Il appelle à la résistance face à la menace totalitaire et organise un grand rassemblement sur les Champs-Élysées.
C'est un coup de poker politique magistral. De Gaulle, en se présentant comme le rempart contre le chaos, parvient à mobiliser ses partisans et à retourner la situation. Est-ce que ce pari risqué va payer ?
Oui, les élections législatives de juin donnent une large victoire aux gaullistes. La France, après un mois de chaos, semble choisir la stabilité.
Alors mai 68 se termine par un retour à l'ordre. C'est une fin un peu abrupte, non ? Après toute cette effervescence, cette énergie révolutionnaire, on se demande ce qu'il reste de mai 68.
Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir dans la dernière partie de notre exploration. Mai 68, c'est une période paradoxale, un échec politique apparent, qui va pourtant avoir un impact profond et durable sur la société française.
C'est fascinant. On a hâte d'en savoir plus sur cet héritage complexe et paradoxal de mai 68. Restez avec nous. On arrive maintenant à la partie la plus intrigante de notre exploration de mai 68. Son héritage. Alors, est-ce que ce mois de révolte a réellement transformé la France ? Ou est-ce que ça n'a été qu'une parenthèse enchantée, un feu de paille vite éteint ?
C'est une question complexe. Sur le plan politique, on peut effectivement parler d'un échec apparent. De Gaulle sort renforcé des élections de juin et les mouvements révolutionnaires ne parviennent pas à prendre le pouvoir. Mais l'impact de mai 68 va bien au-delà de la sphère politique.
C'est vrai qu'on est loin de la révolution prolétarienne rêvée par certains. Mais est-ce que ça signifie que mai 68 n'a eu aucun impact concret ? Qu'est-ce qui a vraiment changé après ce mois de mai bouillonnant ?
Beaucoup de choses en réalité. D'abord, il y a les acquis sociaux. Les accords de Grenelle, même s'ils ont été rejetés par la base, ont servi de base à des négociations ultérieures. Le SMIC a augmenté de 35%. Et on a assisté à une vague de hausse salariale dans tout le pays.
Ah oui, c'est un changement majeur. On imagine le soulagement pour des millions de travailleurs qui peinaient à vivre décemment.
Absolument. Mai 68 a aussi accéléré des réformes qui étaient en gestation depuis un certain temps. Par exemple, la loi Forvoté, en novembre 1968, a profondément transformé l'université française. On a démantelé l'université napoléonienne, jugée trop centralisée et autoritaire, et créé de nouvelles universités plus autonomes, plus ouvertes aux étudiants.
C'est la fin du cours magistral du professeur qui détient seul le savoir. On ouvre la voie à une pédagogie plus interactive, plus participative. Les étudiants ont désormais plus de voix au chapitre.
Exactement. Et puis, il y a l'impact sur les mœurs, sur la vie quotidienne. Mai 68 a accéléré la libéralisation des rapports entre hommes et femmes, remis en question l'autorité parentale et promu une plus grande tolérance pour les différences.
C'est le début de la révolution sexuelle, de la libération des corps et des esprits. On rejette les carcans de la société traditionnelle pour vivre plus librement, plus intensément.
Oui, on peut parler d'un véritable bouleversement culturel. Mai 68 a linéré les énergies créatrices, stimulé l'imagination, ouvert de nouveaux horizons. L'art, la musique, la littérature, tous les domaines de la création sont touchés par cette vague de liberté. Et comment ne pas parler des slogans, des affiches qui sont devenus si emblématiques de mai 68 ?
Ah oui, ces slogans et ces affiches. Ils témoignent de la créativité de l'humour, mais aussi de la radicalité du mouvement. Il est interdit d'interdire, sous les pavés la plage, soyez réaliste, demandez l'impossible. Des phrases qui sont restées gravées dans la mémoire collective.
Ces slogans, ces images sont devenus des symboles de mai 68. Mais ils révèlent aussi son ambiguïté, sa complexité. Certains slogans, comme « vivre sans temps mort » et « jouir sans entrave », peuvent être interprétés comme une apologie de l'individualisme du consumérisme, ce qui est paradoxal pour un mouvement qui se voulait révolutionnaire et anticapitaliste.
C'est le revers de la médaille, non ? La liberté individuelle peut parfois se transformer en égoïsme, en repli sur soi. Et c'est là que le débat sur l'héritage de mai 68 devient intéressant.
Exactement. Certains accusent mai 68 d'avoir engendré une société individualiste, matérialiste, dépourvue de valeurs morales. Ils pointent du doigt la perte de repères, le déclin de l'autorité, le relativisme moral.
C'est une vision assez pessimiste de l'héritage de mai 68, mais y a-t-il d'autres points de vue ?
Bien sûr. D'autres, au contraire, voient en mai 68 un moment de progrès social et culturel. Une rupture avec l'ordre moral ancien trop rigide, trop autoritaire. Ils mettent en avant les avancées en matière de droits des femmes, de liberté, d'expression, de tolérance.
Alors, mai 68, révolution ratée ou mutation réussie, le débat reste ouvert, n'est-ce pas?
Oui, et c'est tant mieux. Mai 68 continue de nous interpeller, de nous faire réfléchir sur la société, sur nos valeurs, sur le sens de l'engagement. C'est un héritage complexe, parfois contradictoire, mais toujours stimulant.
Voilà qui conclut notre plongée dans mai 68. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps, que vous avez découvert des aspects méconnus de cet événement majeur de l'histoire française. Et surtout, j'espère que cette exploration vous a donné envie d'en savoir plus, de vous poser des questions sur le monde d'aujourd'hui, sur les héritages du passé qui façonnent notre présent.
Mai 68 nous rappelle que le changement est possible, que les sociétés peuvent évoluer, même si le chemin est parfois long et semé d'embûches. C'est un héritage précieux qui nous invite à rester vigilants, à ne jamais cesser de questionner l'ordre établi, à imaginer un monde meilleur.
Merci de nous avoir accompagnés dans cette passionnante exploration de mai 68. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les profondeurs de l'histoire.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.